le loup réel reste assez largement inaccessible pour l'homme, qui le rencontre peu, ou qui le rencontre dans des conditions relativement mauvaises souvent, etc. Ou quand il peut l'observer, c'est dans des conditions un peu artificielles de vie en captivité.
Le loup est un problème multifactoriel, et donc on doit l'aborder de manière multidimensionnelle en allant vraiment solliciter toutes les couches de la société.
Donc ça veut dire qu'il va falloir refaire de la politique, mais avec des communautés très différentes, qui sont composées d'humains et d'autres qu'humains, à commencer par les loups.
On va s'adapter, et le loup aussi.
On va s'adapter, et le loup aussi, c'est une certitude.
Oui, oui, certainement.
Le loup est revenu, près de 150 ans après avoir quitté notre territoire. De nuisible, familier et au nid, il est devenu un animal mystérieux, fascinant et protégé, symbole de biodiversité. Il n'en reste pas moins que son retour fait grincer des dents. Dans le podcast Hector, on part à la rencontre des scientifiques de l'UNAMUR pour questionner la science, ses pratiques et ses évolutions. Dans cette série, en 2 épisodes, on va s'élancer sur les traces du loup en Belgique, parcourir son histoire, ses histoires, interroger sa place dans notre imaginaire collectif et dans l'écosystème. Dans l'épisode précédent, on a vu comment les naturalistes et les littérateurs avaient contribué à diaboliser l'espèce au fil des siècles. Aujourd'hui, on va se demander comment la science peut au contraire aider à pacifier la cohabitation entre l'homme et le loup. Si auparavant la question était de savoir comment repousser l'ennemi numéro 1, le défi est maintenant de protéger le canidé autant que les troupeaux. Il s'agit donc de concilier le modèle du loup nuisible et du loup sanctuarisé. On va entendre les pistes que suggèrent les scientifiques pour sortir de ce qui apparaît comme étant en fait une crise diplomatique. Et si, pour dépasser l'affrontement, il fallait former des diplomates garous et apprivoiser le paradoxe d'une négociation avec l'ingouvernable.
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Moretus Plantin. Épisode 2, les diplomates.
Ça, c'est le hurlement du loup, un cri qu'il n'est plus improbable d'entendre chez nous. Depuis 2016, le canidé fréquente à nouveau la Belgique. Son retour spontané à partir de quelques poches résiduelles en Italie est général en Europe, où la population de loups avoisine aujourd'hui les 14 000 individus.
Maintenant, on constate que le loup revient.
Claire Diedrich, professeure d'éthologie et de bien-être animal à l'UNAMUR.
Ce serait multifactoriel. C'est vrai que la tendance sociétale générale est à la préservation de la nature, de l'environnement, une moindre action ou intervention sur la nature et l'environnement. On protège certaines régions, on évite d'intervenir, de couper des arbres ou de tracer des routes supplémentaires, de déboiser à l'excès. C'est une opportunité pour certains animaux, quand ils ont besoin de s'installer à un nouvel endroit, de se déplacer et de s'arrêter quelque part à un endroit qui serait considéré par eux comme étant accueillant.
C'est redevenu accueillant, en fait.
C'est redevenu accueillant, ou en tout cas, s'ils passent par là, ils ne risquent pas de se faire tuer parce qu'il y a des mesures locales qui sont prises pour préserver leur présence, ne pas trop les déranger, ne pas les chasser.
On l'a entendu dans l'épisode précédent. La Convention de Berne, adoptée par l'Europe en 1979, fait du loup un animal protégé. Autant dire que ce texte opère un véritable basculement. Il change radicalement le statut de la bête, qui de pourchassée devient intouchable. Le loup a dès lors tout le loisir de recoloniser nos forêts, et il le fait.
On dirait des loups.
C'est pas du possible. C'est des loups.
On a une meute en Flandre avec Noëlla et Auguste.
Julie Duchesne, historienne à l'UNAMUR.
Depuis 2018, ils ont déjà eu 3 portées de louveteaux.
Ils ont combien de petits loups?
Alors, ça fait au total, en 2020, ils ont eu 5 jeunes, en 2021, 6 jeunes, et en 2022, 9 jeunes.
On fait le calcul?
Donc, ça fait 14, ça fait 20, hein, c'est ça?
Oui, quand même.
On est historienne.
On n'est pas mathématicienne.
Et alors, en Wallonie, donc, dans les Hauts-de-Fagne, on a une meute avec Akela et Maxima, qui, eux, ont déjà eu deux portées. Une première avec 4 jeunes en 2021, et une deuxième en 2022 avec 5 jeunes. Et puis, on a un couple hein, qui est assez récent, donc c'est 2022. Et si je ne me trompe pas, dans ce couple, en fait, la femelle, c'est une jeune de Akela et Maxima.
Ah, ok.
Qui ne s'est pas, du coup, trop éloignée de ses parents.
Et qui vont, il va bientôt y avoir une portée. Donc, après, le nombre oui. augmente. Là, ça fait, ouais. Zut, tu l'as dit, depuis combien de temps la première meute qui a été installée ?
2018.
2018 en Flandre, donc on est vraiment que historienne. Dans 5 ans,
oui.
il y a une trentaine de loups.
Oui, c'est ça. Et installés, du coup, on a quand même moins installés vraiment définitivement. On est à 6 pour l'instant. Plus les jeunes qui vont être amenés à partir.
C'est sûr qu'ils partent, en fait.
Oui, c'est sûr.
À ce stade, donc, la présence du loup en Belgique est encore singulière. Mais quand on sait la façon dont les canidés occupaient largement notre territoire au siècle précédent, avec des milliers d'individus rôdant dans nos bois, la question se pose forcément. On va vers quoi, en termes de chiffres ?
C'est assez compliqué, c'est impossible en fait, je pense, de déterminer le nombre de loups qu'il va y avoir en Belgique, car on a un territoire hyper morcelé, et en fait aucune connaissance pour la Belgique.
Oui, mais on peut se dire, tiens, en France, ça s'est passé comment ? À quel rythme, finalement, ils évoluent ? Voilà, à quel rythme ça va, finalement, une fois qu'ils sont là ?
Le problème, c'est que la France, en fait, et la Belgique, c'est vraiment des territoires très différents, parce qu'on a un plus grand espace en France, et quand même, la principale zone où la population s'est redéveloppée en France, ça a été tous les massifs montagneux, ce qu'on n'a pas du tout en Belgique. Et chez nous, ben, on a un territoire beaucoup plus réduit, avec quand même une densité de routes. Et donc, en fait, c'est assez compliqué de déterminer quel est le besoin en termes de superficie, parce que le territoire d'un loup, c'est assez vaste. Le territoire d'un loup, ça peut aller de 15 000 à 35 000 hectares. Hein. Et ça va dépendre déjà donc, des ressources en nourriture. Hein. Donc voilà, c'est difficile en fait de faire une projection.
Ce qui est certain, en revanche, c'est que même peu nombreux, les loups font déjà beaucoup parler d'eux.
Ici, quand j'ai vu le premier cadavre, je savais que c'était le loup. Mais il faut pas faire de mal au loup. Hein. Le loup, c'est une bête très gentille, protégée. Attention, protégée. Voilà le résultat du loup. Si je devais être quelqu'un de correct, je devrais dire, bon, on va se protéger, on va vivre avec. Mais la seule solution, ce sera le fusil. C'est malheureux à dire, mais...
Épisodiquement, les médias nous rapportent des cas d'attaques d'animaux d'élevage et font écho à la détresse des agriculteurs ou à celle des habitants des villages avoisinant les territoires occupés par les loups. À Utzbergen, par exemple, dans la province du Limbourg, deux marches anti-loups ont déjà été organisées, rassemblant des milliers de personnes pour dénoncer les ravages causés par l'animal. Les manifestants agitaient d'immenses photos d'animaux dévorés par le loup, des moutons, des poneys, des ânes, des vaches, et criaient leur insécurité de sortir de chez eux le soir venu.
Waar is Gaia in dit hele verhaal? Hier worden onze dieren gewoon verscheurd, opgejaagd.
Was de meerwaarde van de wolf?
En revenant, le loup a donc ressuscité les passions qu'il avait provoquées pendant des siècles. Sauf que sa disparition a changé le contexte. Désormais, parmi les hommes, deux visions s'affrontent.
Je vais commencer par un fait divers.
Okay, vas-y.
Qui ne concerne pas immédiatement les loups, mais qui va poser le même problème.
Paul Guilibert, philosophe à l'UNAMUR.
C'est une ours qui a tué un jogger en Italie il y a 3-4 semaines, parce que c'était au moment de la fin de l'hibernation, et elle a croisé un jogger sur sa route à un moment où elle était en train de protéger ses petits, ses trois petits, et du coup elle l'a attaqué et elle l'a tué. Et donc ça a créé évidemment une énorme controverse en Italie, un énorme scandale à propos de la question de la réintroduction des animaux sauvages. Là, pas des loups, mais des ours. Et en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est à la fois ce que ça signifie et le type de controverse que ça produit. Le type de controverse que ça produit, c'est entre les gens qui, d'un côté, veulent qu'on tue l'ours en question, en arguant du fait qu'on peut pas laisser des animaux sauvages tuer des êtres humains.
Comme une punition, là, carrément.
Comme une punition. Mais si on adhère à cette punition, ça suppose qu'on considère que l'animal sauvage a une part de responsabilité, qu'il a une part d'intentionnalité.
Et ça fait penser au procès des animaux du Moyen-Âge.
Ça fait tout à fait penser au procès des animaux du Moyen-Âge. Donc en fait, on leur donne une personnalité. Et d'un autre côté, face à ça, des gens qui disent « Bah non, on a décidé de réintroduire les ours, il faut en assumer les conséquences. »
Le loup, lui, n'a pas été réintroduit, en Europe du moins. Cette théorie tient du complot, elle circule pas mal en France d'ailleurs. Mais donc, la résurgence naturelle du loup est bien souvent perçue pour ce qu'elle est, en signe de renouveau de la biodiversité. Julie Duchesne, historienne.
Le retour du loup, ça montre quand même un environnement qui est reconstitué. Donc pendant le 19e siècle, on a quand même eu énormément de déforestation, en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, aujourd'hui, 20e, 21e siècle, on est quand même dans les taux de surface boisée les plus élevés. Donc là, on a quand même des forêts reconstituées, une faune reconstituée.
Le loup est en plus un grand transformateur des milieux. Il exerce une pression extrêmement forte sur les animaux prédatés qui doivent s'adapter et par ricochet, il marque son empreinte sur la faune. En mangeant les herbivores, il permet aux arbres et aux plantes de se développer. Claire Diedrich, professeure d'éthologie à l'UNAMUR, explique comment ce constat est particulièrement évident aux États-Unis, dans le parc de Yellowstone, là où des loups gris ont volontairement, cette fois, été réintroduits en 1995 dans une politique de réensauvagement.
On a constaté, donc le loup, c'est le plus grand des canidés, plus grand en taille, bon, c'est au moins un mètre à l'épaule, quoi, ce qu'on appelle le garrot. Oui, des grands animaux, plusieurs dizaines de kilos. Pour se nourrir, ben, il attrape du gibier, qui est un gibier majoritairement herbivore. Et donc, il a diminué près de 50% de ce gibier dans le parc du Yellowstone. Et donc, s'il y a moins d'herbivores, il y a moins de jeunes pousses d'arbres qui sont broutées par ces herbivores. Et ça permet alors aux arbres ou aux taillis ou aux buissons qui n'avaient plus l'occasion de se développer, de pouvoir recommencer à se développer. Et ben là, il y a des endroits où il y a la géographie du paysage qui a changé. Il y a aussi d'autres animaux qui en ont profité pour s'installer.
Concrètement, le coyote a été remis à sa place. Les charognards vont mieux, les castors reviennent peu à peu, les cours d'eau sont repeuplés, les rives ont reverdi, les insectes et les oiseaux ont augmenté à vue d'œil. Tout ça grâce au loup. Ce super prédateur provoque en fait une cascade trophique qui se déverse sur toute la chaîne alimentaire.
Donc de fil en aiguille, parce qu'un grand prédateur est réintroduit, il agit sur une grande partie des animaux qui sont dans la chaîne alimentaire, mais les maillons inférieurs à lui-même.
Alors, le parc de Yellowstone, c'est pas la Belgique, évidemment. On ne peut pas présupposer que le paysage de la peur, comme on l'appelle dans la littérature scientifique, se façonne chez nous de façon absolument identique. Mais cet exemple de réensauvagement réussi et envié en Europe est de bon augure, surtout quand on sait que le loup a déjà, en quelques années et avec des effectifs restreints, impacté le paysage de nos fagnes. Julie Duchesne, historienne.
La surpopulation de cervidés, c'est vrai que Bambi est très mignon. Bambi est mignon, mais Bambi est gourmand et adore les jeunes pousses d'arbres. Et en fait, du coup, au niveau de la freine, en fait, la régénération des forêts. Et du coup, dans les fagnes, notamment par exemple, ils étaient contraints de mettre des barrières autour des jeunes forêts pour que les arbres aient le temps de grandir et soient suffisamment forts pour résister. Et ce qu'on observait avec les forestiers, c'est que depuis que les loups sont revenus dans les fagnes, ils doivent moins utiliser ce système de préservation des forêts contre les cervidés parce que les loups régulent les cervidés. Il fait partie de l'équilibre des écosystèmes en régulant donc les populations de cervidés, de sangliers. Il y en a même des études qui avancent que les prédateurs, par exemple, ont aussi un rôle au niveau, pas de l'hygiène, mais de la sécurité sanitaire. Par exemple, la maladie de Lyme, hein, en régulant donc, toutes des proies qui pourraient être infestées par les tiques, etc. Là, tu pourrais trouver plus d'informations sur ce sujet, je ne l'ai plus bien en tête, mais il joue un rôle jusque-là. C'est beaucoup plus fin que ce qu'on a tendance à penser. C'est vraiment un écosystème, tout est lié en fait, hein, comme une toile d'araignée.
J'ai vu le loup, le renard et la belette, et j'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette, et j'ai vu le loup, le renard danser.
Le loup, on peut dire qu'effectivement, c'est une résurgence de l'Holocène.
Paul Guilibert, philosophe à l'UNAMUR.
C'est une résurgence d'une période, en tout cas, d'avant le capitalisme, d'avant la grande logique capitaliste de domination des territoires. Et que le loup, il réintervient comme ça. Et c'est une nature qui reprend ses droits, qui se réinvestit comme ça. Et on peut dire que le loup, c'est une résurgence holocénique positive. Positive parce qu'elle permet de, réintroduire du sauvage, elle permet de réintroduire des équilibres écosystémiques.
Deux camps s'opposent donc avec véhémence. On parle dans la littérature scientifique des lycophiles et des lycophobes, des pro-loups et des anti-loups, chacun charriant encore son chapelet d'extrapolation et de projection. Ceux qui voient dans le loup un atout maître dans la restauration de la nature, en symbole de la vivification de la société, ceux qui sacralisent le sauvage, ils ont tendance à nier la dangerosité de l'animal. Ceux qui, à l'inverse, le réduisent à un fléau pour les hommes et à un handicap sérieux pour l'essor de l'élevage ont tendance à gonfler sa menace. Alors, comment rapprocher ces deux positions a priori irréductibles ? En Wallonie, il existe, vous le savez, on nous en parle souvent dans les médias, le plan loup, qui tend à dépasser cette dichotomie en ménageant les deux parties. Claire Diedrich, professeure d'éthologie à l'UNAMUR, nous explique.
C'est un sujet conflictuel, de toute façon. Alors, c'est pour ça que dans les mesures qui sont prises en Wallonie, il y a ce qui s'appelle un plan loup, qui est une mesure ministérielle qui a été mise en place par la ministre de l'Environnement à l'époque, la ministre Tellier, qui est actuellement ministre du Bien-être Animal, en 2017. C'est un plan qui est toujours en cours, qui a pour objectif d'aider le loup à s'installer et en parallèle...
D'aider les éleveurs à l'accepter.
Voilà, aider les humains au sens large à l'accepter. Les objectifs du plan loup, il y en a 5. C'est renforcer la protection du loup lui-même, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de braconnage, ou en tout cas éviter, surveiller la présence de braconnage. Si on repère une tanière de loup, ne pas aller déranger cette tanière. Donc ça fait partie des actions de protection. Deuxième élément, c'est renforcer sa détection et son suivi. Donc, est-ce que c'est un loup ou est-ce que ce n'est pas un loup qui est passé par là? Et donc, pour ça, il y a ce qui s'appelle le réseau loup. C'est un ensemble de personnes formées, informées, qui servent de relais et qui rapportent des observations. Le troisième élément important du plan loup, après la protection du loup lui-même et sa détection, c'est aussi le fait de pouvoir indemniser les possesseurs d'animaux dont les animaux auraient servi de proie ou auraient été blessés ou tués par un loup.
Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.
Pardon ?
Quand nous avons affaire à un serial killer.
Un quoi ?
Un serial killer.
Hein ?
Un serial killer, un tueur en série.
Ah, serial killer.
Cette compensation financière, les éleveuses et les éleveurs ne peuvent l'obtenir qu'après enquête. Car il faut vérifier, analyse génétique à l'appui, que c'est bien en loup et non en chien qui a attaqué le troupeau. Et là, le loup, parce qu'il est précédé par sa mauvaise réputation, endosse souvent des responsabilités qui ne sont pas les siennes.
Ça, c'est une des grandes découvertes des analyses des observations du réseau loup. C'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup de chiens qui sont aussi responsables de l'attaque de moutons ou de chèvres.
On mobilise des spécialistes pour dire « attention, mon gibier a été attaqué par du loup » et on se rend compte que ce n'est pas un loup mais que c'est un chien.
Oui.
Et donc le loup a quand même alors un peu une figure de bouc émissaire.
Dans ce cas-là,
on pense vite que c'est lui alors qu'en fait il y a d'autres ennemis de gibier.
Oui, ça c'est un résultat inattendu mais qui marque quand même une intervention du chien parmi les attaques.
En fait, le régime alimentaire du loup, a fortiori du loup établi, est essentiellement composé d'animaux sauvages, pas d'animaux d'élevage.
Les chiffres qu'on a en Wallonie suite au plan loup, à l'analyse du réseau loup, montrent, par analyse des matières fécales, montrent jusqu'à 95% du régime alimentaire sauvage qui est fait d'animaux sauvages. Le quatrième élément du plan loup, c'est faire de la prévention et conseiller les possesseurs d'animaux domestiques contre les attaques de loups. Donc, mettez en place des choses, des accessoires pour faire en sorte que le loup n'ait pas accès à vos animaux trop facilement. Alors, on parle de installer des barrières temporaires, d'avoir des accessoires pour faire peur aux loups, pour les effaroucher et construire des clôtures aussi.
Sur ce point, notons qu'un nouvel acteur vient d'entrer dans le jeu, la Wolf Fencing Team Belgium, un réseau de bénévoles qui fournissent de la main-d'œuvre aux éleveuses et aux éleveurs pour les aider à mettre en place des mesures adéquates. Des subsides sont aussi accordés aux agriculteurs dans certaines zones proches de celles où le loup est établi en Belgique, mais les coûts restent importants pour les agriculteurs en investissement temporel et financier.
Et le dernier point, c'est sensibiliser la population au sens large, enfin tous les intervenants, tous les acteurs, en organisant des soirées d'information ou en donnant des guides de prévention aux éleveurs, par exemple. Donc.
Cette dernière mission, c'est en partie le job de Julie Duchesne. Elle consacre sa thèse de doctorat à l'histoire du loup en Belgique, avec la ferme intention que ses résultats de recherche infusent dans les débats en cours.
Moi, je voulais avoir un échange en fait avec les acteurs de terrain pour vraiment donner mes données, parce que je trouve ça toujours triste quand les résultats des recherches scientifiques en fait restent vraiment cloisonnés dans le monde de la recherche académique, parce qu'il y a assez peu d'échanges avec la société. Et voilà, donc moi, j'estime que les chercheurs ont aussi une démarche à faire. Il ne faut pas attendre qu'on vienne vers nous, tout simplement, parce qu'on c'est pas toujours ce qu'on fait. Et pour revenir du coup à l'impact sociétal des sciences humaines et du rôle de l'historien, là, on le retrouve bien, c'est qu'on va avoir vraiment, je pense, trois rôles. Le premier, ça va être donc l'enjeu des connaissances, apporter des données sur le loup, sur son passé, où il vivait, comment ça se passait, parce que l'air de rien, le loup, ça reste quand même un animal qui reste un peu méconnu. Donc on a un apport de connaissances, et ces connaissances, elles sont indispensables pour une gestion et une conservation de l'espèce, et ça vaut pour toutes les espèces animales. Ça va permettre aussi également de répondre aux interrogations de la population, notamment des éleveurs ou des personnes qui vivent dans les zones de présence permanente du loup. Et puis, il va y avoir également tout un travail pour nuancer, expliciter et contextualiser toutes les idées reçues qu'on a sur le loup. Et donc, en fait, c'est indispensable pour essayer de dépassionner ce débat, pour prendre du recul, voir les choses à plat et avancer. Et puis également, aussi, la recherche historique va aussi soulever des pistes de réflexion, voire de solutions.
C'est aussi ce que dit Claire Diedrich quand elle parle de recréer le dialogue.
C'est comme dans toutes les situations compliquées ou conflictuelles, le dialogue est important. Rapporter des informations, pouvoir s'adapter aussi à la situation. Personne n'a la solution unique et bonne actuellement. Mais le réseautage, justement, le fait de se parler, de rapporter les expériences qui fonctionnent, les initiatives intéressantes, ça ne pourra que être bénéfique. Parce qu'on s'intéresse à lui, on se rend compte qu'il est un peu méconnu, ou même encore très méconnu.
C'est vrai que, on l'a dit, dans les deux camps extrêmes, on imagine le loup plus qu'on ne le connaît vraiment. Parce qu'il faut s'affranchir de siècles de représentation d'une figure féroce façonnée par la littérature ancienne. Parce qu'il faut aussi corriger les premières observations scientifiques qui ont dressé un portrait faussé de l'animal. On a entendu dans l'épisode 1 le naturaliste Buffon décrire un loup cruel et incapable de vivre en société. Il se trompait. Le loup est une espèce profondément sociale et même capable d'apprentissage collectif. Après lui, Buffon, d'autres scientifiques de renom ont construit des théories qui ont desservi l'animal. C'est le cas de Rudolf Schenkel, un éminent zoologiste allemand qui a observé les loups du zoo de Bâle et qui a fondé ce qu'il a appelé la sociologie des loups, en décrivant les processus de compétition et de dominance au sein de la meute.
Et c'est lui le premier à avoir décrit, dans les années 1930-1940, ce qu'on pourrait appeler le mâle alpha, l'individu loup dominant, le top loup, quoi. Celui qui est au-dessus de tous les autres, qui a un accès privilégié à tout ce qui pourrait l'intéresser, en particulier le lieu de repos, la femelle ou les femelles reproductrices, ou la femelle reproductrice et la nourriture.
20 ans plus tard, David Mensch, en zoologiste américain, reprend l'idée et l'amplifie.
Il a confirmé ce que Rudolf Schenkel disait. Donc, il y a bien une organisation mâle alpha qui domine tout le monde. Et à la même époque, on a aussi détourné chez les humains cette expression mâle alpha comme étant l'humain qui réussit dans la société, qui est capable de mener son entreprise lui tout seul, qui est beau, qui attire les femmes, qui passe devant tous les autres humains.
L'expression « mâle alpha » est ainsi passée dans la culture générale, inspirant les réflexions sur le leadership en entreprise et plus tard sur le féminisme. Et pourtant, en 1999, Mensch fait une déclaration sur un ton penaud. « On s'est trompé », dit-il en gros. « Les individus alpha, censés dominer le groupe à l'issue d'un processus de compétition, n'existent pas. En tout cas, pas comme on le croyait. »
En observant le comportement de loups sauvages dans des grands espaces, ils réalisent qu'on a affaire à des groupes familiaux. Et dans ces groupes familiaux, on a les parents reproducteurs et les jeunes.
Les éthologues font alors demi-tour. Ils réfutent l'idée de relation assise sur la dominance et la soumission et décrivent dorénavant une dynamique relationnelle basée sur le couple reproducteur. Ce n'est pas anodin, ce changement de perspective. Il montre combien, d'une part, nos représentations sont pétries de préjugés, et d'autre part, que la connaissance scientifique sur la question est encore perfectible. On l'a déjà dit dans un autre épisode du podcast Hector, consacré à la valeur de la parole des experts, une théorie scientifique est admise jusqu'à ce qu'elle soit, éventuellement, remise en cause. Les certitudes scientifiques ne sont que provisoires, et cette façon dont fonctionne la science, avec des remises en question, des corrections, des ajustements, c'est précisément ce qui la rend fiable. Aujourd'hui, la réflexion pour réduire la contrainte du loup doit tenir compte du nouveau contexte, à savoir la reconnaissance de l'animal comme espèce protégée, ça, c'est l'aspect légal, et l'ambition de préserver la biodiversité, ça, c'est le point moral. C'est ici que l'éthique de la Terre peut nous aider à raisonner autrement. C'est Paul Guilibert, philosophe à l'INAMUR, qui le suggère.
L'éthique de la Terre, c'est quoi ? C'est l'idée qu'il faut intégrer à nos compréhensions de l'éthique et donc de la morale des entités naturelles, des êtres naturels. Et qu'il faut avoir pour eux le même type d'attachements moraux qu'on a pour des êtres humains. Il faut donc leur reconnaître une valeur intrinsèque. C'est donc non pas une perspective anthropocentrique, mais une perspective écocentrique. Il faut comprendre la place de chaque espèce au sein de l'écosystème dans sa totalité. D'où une perspective écocentrique, une perspective qui prend le point de vue de la Terre ou de l'écosystème. C'est l'idée de dire qu'on ne peut plus penser la politique et même l'éthique, la morale, simplement à partir des points de vue humains. Il faut aussi prendre en compte un ensemble de points de vue non humains, de points de vue autres qu'humains, qui sont le point de vue des animaux, mais aussi le point de vue des écosystèmes dans leur ensemble. Et que ça implique forcément une forme d'humilité. Après, ça a été un débat extrêmement vaste en philosophie de l'environnement, qui n'est pas terminé. La question de l'anthropocentrisme. Pourquoi ? Parce qu'on dit, bon, d'accord, il faut préserver des êtres naturels, leur reconnaître une légitimité par eux-mêmes, en tant que tels, mais qui a le pouvoir de faire ça ? C'est toujours des êtres humains qui ont le pouvoir de reconnaître qu'ils doivent s'auto-limiter, qu'ils doivent limiter leur propre pouvoir sur le monde naturel. Donc, c'est un anthropocentrisme qui en fait renvoie au fait que c'est toujours les êtres humains qui ont la capacité de changer leur propre position. Et donc, ça a été un grand débat de dire, bon, en fait, on ne sort jamais d'une aporie dans laquelle ou bien on est anthropocentriste, ou bien on dit qu'on n'est pas anthropocentriste, mais en fait, on reconnaît encore à l'homme, et seul à l'homme, le pouvoir de ne pas être anthropocentrique. Ce qui est encore une position anthropocentrique.
Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais...
Une réponse parmi d'autres, une réponse de la philosophie pragmatiste de l'environnement, ça a été de dire, peut-être qu'on s'en fout, en fait, de savoir si c'est un point de vue humain ou pas humain qui nous permet de nous décentrer. Ce qui compte, c'est de se décentrer. Et ce qui compte, c'est de se décentrer et de prendre en compte les intérêts des autres qu'humains. Peut-être que c'est dans notre intérêt à nous de prendre l'intérêt des autres qu'humains, mais ça change rien.
Alors comme ça, ça ressemble à une jolie théorie philosophique, fort accommodante, mais très peu concrète. Et pourtant, l'idée derrière l'adoption d'un point de vue décentré est bien d'améliorer de façon tangible la connaissance du loup et de son potentiel à être en relation avec l'homme, ou l'inverse. Il est nécessaire en tout cas d'apprendre à connaître l'animal pour se familiariser avec ses façons d'exister.
En philosophie, c'est difficile aujourd'hui de contourner le plus grand penseur du vivant, philosophe du vivant, qui part des loups, qui est Baptiste Morisot, qui a écrit tout un ensemble de livres sur les loups, et notamment les diplomates cohabitaient avec les loups sur une autre carte du vivant. Et alors, le travail de Morisot, il part exactement du problème dont on parlait tout à l'heure, à savoir qu'est-ce qui se passe quand des loups réapparaissent dans certains contextes, où il va y avoir un conflit qui va se mettre en place entre ceux qui veulent défendre le loup en tant qu'espèce sauvage qui doit être défendue dans un contexte d'effondrement de la biodiversité et par exemple des éleveurs qui vont se défendre eux-mêmes et leurs moutons. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est qu'il y a un affrontement entre deux types de visions de la nature. Mais c'est pas des visions caricaturales, parce qu'à chaque fois, c'est des humains et des autres qu'humains. Dans le cas des préservationnistes, c'est des écologues, par exemple, qui vont défendre les loups. Donc il y a un sujet composite écologue-loup. Et de l'autre côté, il y a un autre sujet composite, qui est un autre sujet hybride, qui est le sujet mouton ou animaux d'élevage et éleveurs, qui sont quand même pris dans des rapports d'intérêt mutuel par rapport au loup. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on compose ces rapports-là? Et on tourne autour du pot. La proposition de Morisot, c'est de dire qu'il faut arriver à penser comme les loups. Morisot, pour faire ça, il va pister les loups. Et il développe des techniques de pistage. Le pistage, c'est quoi? C'est le fait de suivre des animaux. Et il y a deux grandes méthodes, selon Morisot, pour suivre les animaux. Soit tu les suis à la trace, tu cherches tous les signes qu'ils ont laissés dans l'environnement et tu les suis à la trace. Soit tu les suis de manière spéculative et tu imagines le type de déplacement qu'ils pourraient avoir. Donc là, tu te fondes évidemment sur des travaux d'éthologie, mais aussi sur des travaux de phénoménologie, etc. Et l'idée, c'est que en essayant de comprendre le type d'interaction que les loups entretiennent entre eux et entretiennent avec leur environnement naturel, on peut créer ce qu'il appelle, encore à la suite de Stengers, des formes de diplomatie animale, de diplomatie avec les animaux.
Dans son livre « Les diplomates », titre repris pour cet épisode, Baptiste Morisot considère donc qu'il faut amener à la table les meilleurs diplomates et enclencher avec eux un processus de négociation. Ça nous rappelle la légende de François d'Assise dans l'épisode 1, le saint se profilant comme le premier de lignée des diplomates garous.
Comment on fait pour passer de la philosophie à la pratique, en fait? Est-ce que c'est convaincant pour des éleveurs d'entendre ce type de discours?
Oui, je pense que c'est pas convaincant au départ pour des éleveurs d'entendre ce type de discours. Il y a toujours un conflit, souvent fort, entre des éleveurs, y compris des éleveurs qui sont inscrits dans des pratiques traditionnelles et agroécologiques, et au départ des politiques de réensauvagement. Parce que l'intérêt sur les intérêts économiques sont pas les mêmes, les intérêts sociaux sont pas les mêmes, les intérêts de rapport à la nature sont pas les mêmes. Donc je pense qu'il faut partir du conflit. Il faut pas partir de l'idée qu'il y a pas de conflit, mais au contraire, il faut partir du conflit. Partir du conflit pour voir comment est-ce qu'on essaye de le résoudre en conciliant des intérêts différents. Et en fait, ça se fait quand même. Ça s'est fait dans les Alpes françaises, de manière plus ou moins conflictuelle. Ça s'est beaucoup fait dans les Pyrénées. Il y a plein d'endroits dans lesquels on peut penser et on a mis en place avec, par exemple, dans le cas de la France, de réserves naturelles dans lesquelles il y a encore des pratiques agroécologiques de certains éleveurs, mais avec des pratiques très spécifiques, par exemple, en leur proposant le soutien d'ingénieurs forestiers ou d'ingénieurs écologiques qui connaissent la manière dont les loups vont se comporter et d'éthologues qui connaissent la manière dont les loups vont se comporter et qui vont pouvoir leur donner des indications pour préserver leurs troupeaux, en réintroduisant des espèces à d'autres espèces animales, des chiens, etc.
On en revient à l'importance d'une meilleure observation du comportement du loup et au dialogue entre les disciplines. L'idée est de former des diplomates qui penseront comme le loup, d'expérimenter une attitude de profiler de loup pour créer un dialogue entre le monde humain et le monde lupin. C'est déjà bien ce qui a abouti aujourd'hui à des propositions concrètes pour diminuer les dommages causés au bétail par le prédateur.
C'est ce qui fait qu'on peut adapter les barrières aux techniques de prédation du loup, les enterrer par exemple. C'est ce qui fait aussi qu'on sait repérer ce qui est susceptible de repousser le loup, des sons, de la lumière, des colliers répulsifs placés autour du cou des brebis, autant d'artifices qu'on appelle des effaroucheurs. Alors aucune innovation technologique ne sera magique, c'est certain, mais combinées, elles pourront restituer leur pouvoir d'agir aux éleveurs tout en laissant le loup envahir l'espace auquel il a droit. L'idée, en somme, est donc de passer d'un rapport de force à des relations plus coopératives.
La question que ça pose, ces animaux, c'est que c'est des animaux ingouvernables et donc du coup, ils posent la question de la souveraineté de l'État. Donc en fait, ils indiquent la possibilité d'un autre rapport au monde vivant qui soit pas fondé sur la domination sociale de la nature, mais qui soit fondé sur une part de libre évolution. Le concept de libre évolution, c'est un concept qui a été forgé par Baptiste Morisot pour désigner le fait que certains êtres naturels ou certaines parts de la nature doivent être laissés à des formes d'évolution non dominées par les êtres humains, non guidées, non gérées.
Le loup est biologiquement gouverné par une loi de dispersion. Il refuse catégoriquement de rester dans les limites que lui impose l'homme. Une des solutions, selon le philosophe, serait donc d'augmenter les espaces de réensauvagement.
Regarde, ça c'est mon espace de danse, et ça c'est ton espace de danse. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace, ok ?
Ce qui fait aussi qu'il y a de fortes interactions conflictuelles entre les loups et les préservationnistes d'un côté et les éleveurs et leurs moutons ou leurs bêtes de l'autre, c'est la faiblesse des espaces ensauvagés en Europe. C'est le fait qu'il y a très peu d'espaces ensauvagés en Europe. Et que, donc en fait, il y a beaucoup, forcément, de lieux d'interaction entre des espaces sauvages ou réensauvagés, qui sont le territoire des loups, et des espèces d'agriculture ou d'élevage, des espaces d'agriculture ou d'élevage. Donc en fait, l'enjeu, à mon sens, c'est plutôt de voir et de penser comment est-ce qu'on fait pour limiter l'emprise urbaine et comment est-ce qu'on fait pour limiter non seulement l'emprise urbaine, mais l'emprise industrielle. L'ensemble des grands projets d'aménagement du territoire qui enclosent en permanence les surfaces de vie sauvage et qui donc restreignent les espaces de mobilité pour les animaux sauvages. Préserver ces espaces-là, une forme de discontinuité dans ces espaces-là, c'est quand même au cœur de l'enjeu. Et là, effectivement, on a tous les moyens, politiquement et socialement, de s'opposer à certains grands projets d'urbanisation, à certains grands projets qui sont en plus tous régis par une logique ou bien de rentabilité économique, ou bien de planification et d'aménagement par l'État pour favoriser la rentabilité économique. Mmh. S'opposer à toutes ces logiques d'accaparement, d'aménagement qui empêchent la vie sauvage de se maintenir dans ses propres espaces et dans sa forme, dans ses formes propres, quoi.
Est-ce que c'est pas des manières de penser qui peuvent être juste taxées aussi de gauchistes ? Du coup, ça veut dire qu'on fait primer quelque chose qui n'est pas dans nos intérêts économiques.
Oui, mais tu vois, la préservation du monde sauvage telle qu'elle s'est pensée aux États-Unis, elle a été souvent très... Elle a été pas du tout gauchiste. Il y a eu des gens qui ont été critiques de la modernité industrielle là-dedans, mais pas que du tout, tu vois. C'est quand même des projets, la préservation de la nature sauvage, qui sont portés par les gouvernements américains depuis le 19e siècle de manière quasiment ininterrompue, quels qu'ils soient. Et c'est porté par des gouvernements nationalistes comme les gouvernements indiens. C'est porté dans des logiques hypercoloniales par certaines organisations internationales. Donc je crois qu'au contraire, ça peut tout à fait s'accommoder de trucs pas gauchistes. Tout dépend de la manière dont on pense le sauvage. Si on pense le sauvage comme des espaces cantonnés qu'il faut préserver, alors en fait ça s'accommode très bien de logique économique, de logique rentabiliste. Parce qu'il y a assez de place, puis parce que ça fait pas peser de menaces sur le reste. Y compris en Europe, le fait de constituer des parcs naturels, des zones naturelles, est pas en soi de gauche. Ça peut le devenir, bon moi j'espère que ça le devienne évidemment, mais ça peut le devenir à partir du moment où ça porte aussi une critique de tous les systèmes économiques et sociaux qui, autour des réserves naturelles, contribuent à l'effondrement de la biodiversité, au réchauffement climatique, à la pollution des nappes phréatiques, etc. Si tu réintègres le sauvage comme modèle au sein du monde social, comme part au sein du monde social extérieur, mais comme simplement une part qui ne concerne pas la totalité du monde social, alors c'est pas de gauche. Ça devient, en fait, une question d'émancipation, une question progressiste, à partir du moment où tu dis que le sauvage, ça concerne toute la société, dans son ensemble. Parce que ce qui menace le sauvage, c'est toutes les dynamiques sociales, d'exploitation, d'industrialisation, etc.
Mais c'est vrai.
Et c'est vrai. Men kan inte
sova. Relevons le paradoxe tacite de ces initiatives humaines de réensauvagement. Elles redéploient une nature sauvage, domestiquée, une nature aux allures libres, mais qui au fond est totalement administrée. En tout cas, pour Julie Duchesne, historienne, la solution passe aussi par la collectivité.
Je pense que tout le monde dans notre société doit et peut participer à ce défi. C'est une réflexion plus sociétale sur notre mode d'élevage, du coup sur nos systèmes économiques. Est-ce qu'on ferait pas mieux, du coup, d'essayer de, pour les aider, d'acheter plutôt de la viande wallonne et pas de la viande pas chère qui est exportée de je ne sais pas où. Donc, une vraie question, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus large. Du coup, c'est aussi, par exemple, la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, hein. C'est pour ça que c'est très complexe, en fait.
Avant de conclure sur cet effort collectif et l'acceptation du sauvage, j'aimerais revenir sur une réflexion de Paul Guilibert. Souvenez-vous, il a dit...
La question que ça pose, ces animaux, c'est que c'est des animaux ingouvernables. Et donc, du coup, il pose la question de la souveraineté de l'État. C'est d'autres manières d'être en rapport avec son territoire, notamment... Parce que, comme on le disait, c'est des territoires des loups, qui connaissent pas les frontières de la propriété privée et qui connaissent pas les frontières de la souveraineté nationale.
Paul Guilibert nous emmenait ensuite sur le terrain de la diplomatie politique pour mieux négocier le partage du sauvage avec les loups. Mais dans le domaine politique, le philosophe apporte une autre analyse qui nous ramène à la figure fantasmatique du loup telle qu'on l'a décrite dans l'épisode 1 de cette série. Il relève la survivance de l'idée d'une nuisibilité du loup menaçant la civilisation dans l'imaginaire politique contemporain.
Le loup, par certains aspects, son image a été domestiquée, oui. Son image a été anthropisée, et par certains aspects, pas du tout. Par certains aspects, ça reste encore une menace. Ça reste encore un animal qui menace, c'est le cas des éleveurs, par exemple, mais c'est aussi une figure du nuisible, ingouvernable, qui nourrit tout notre imaginaire, pas simplement notre imaginaire de la nature, aussi notre imaginaire politique. Ça, c'est un bouquin extrêmement important d'un anthropologue qui s'appelle Ghassanaj, qui s'appelle Le loup et le musulman. Et dans Le loup et le musulman, il montre comment, en fait, la figure du musulman, aujourd'hui, en contexte extrêmement islamophobe dans certaines parties de l'Europe occidentale et du monde occidental de manière générale, pas que occidentale d'ailleurs, elle est constituée souvent sur une métaphore lupine, sur une métaphore du loup, soit du loup solitaire, soit de la meute qui vient nous envahir. Et dit Ghassanaj, qui est très important par rapport à ça, c'est que le loup qui vient nous envahir, cette figure qui vient nous envahir, c'est une figure, une forme de l'ingouvernabilité, de l'étranger en tant qu'il est ingouvernable. Et donc, associer le loup aux musulmans, ça permet à la fois d'inférioriser le musulman, de le rendre étranger, et ça permet aussi de produire, reproduire une certaine image du loup comme un animal dangereux, menaçant, qui n'a pas de frontières et qui est ingouvernable.
Le loup continue de fournir une métaphore pour définir ceux qui menacent notre domaine souverain. C'est le cas aux États-Unis, où le loup est utilisé pour racialiser le musulman. Dans son livre, Ghassanaj donne des exemples, notamment celui d'un commentateur américain qui, évoquant les attentats du 11 septembre, dit ceci.
Combien de loups solitaires attaqueront l'Occident, sa liberté et son ouverture avant que les gens comprennent que ce ne sont pas là des loups solitaires? Pour paraphraser Ian Fleming, un terroriste musulman est un loup solitaire. Deux terroristes sont un couple de loups solitaires. Trois ou plus, et c'est une meute. C'est ce que nous avons ici, une meute de loups.
De l'autre côté de l'Atlantique, un journaliste commente de la même façon des attentats qui ont eu lieu à Sydney.
Il me semble que nous avons vu assez de loups solitaires pour avoir une meute conséquente.
Mais c'est que américain, les exemples ?
Non, les exemples, ils sont américains, anglais, australiens.
Oui, c'est le monde anglophone quand même. Quoi.
Dans le monde
tu
anglophone.
Tu l'as déjà repéré chez nous ?
J'ai pas repéré ça dans le monde francophone, mais on va faire attention, peut-être maintenant d'ailleurs.
Surtout que c'est déjà chez nous. Depuis une dizaine d'années, le terme ensauvagement est utilisé de façon controversée en France, d'abord par l'extrême droite, puis par une partie de la droite, pour dénoncer une montée de violence et de délinquance reliée à l'immigration et à l'islamisation. Egassan Hedge l'explique, le crime écologique et le crime racial reposent sur la même volonté de gouverner l'ingouvernable. Il dit « Dans l'imaginaire collectif occidental, les figures du loup et du musulman, ou plus généralement de l'arabe ou du migrant, ont en commun de représenter une menace pour l'ordre établi. Ils sont vus comme des éléments ingouvernables. » En résumé, notre relation au loup s'est construite sur un conflit avec la nature, que nous essayons de maîtriser depuis le néolithique. La solution semble a priori se réduire à une gestion traditionnelle et zootechnique, protéger les bêtes et leurs éleveurs du prédateur carnivore. Puisque l'extermination du nuisible, désormais protégé, est une option caduque sur les plans juridiques et moraux, des dispositifs de protection et de distanciation tels que des enclos, des barrières électrifiées, des chiens de troupeau et des colliers répulsifs sont proposés aux victimes du loup. Ces mesures sont nécessaires et légitimes. Mais on peut se demander si elles sont suffisantes. En parlant avec nos chercheuses et nos chercheurs, il apparaît que la vraie réponse est éminemment plus politique et philosophique. Car le retour du loup nous permet de questionner notre cohabitation avec d'autres espèces et nous invite à changer de regard, à modifier nos modes d'occupation et de gestion de la planète. Ni ange ni démon, le loup s'est adapté au fil des siècles dans des environnements de plus en plus dominés par l'homme. Et c'est peut-être bien le problème. Ce rapport de domination. N'est-il pas temps d'abandonner le modèle de la souveraineté humaine, d'aménager de nouveaux types de relations aux vivants basées sur la diplomatie et la coopération? En tout cas, au terme de cette série en 2 épisodes, une chose me paraît claire. Face au retour du loup, pas la peine de montrer les crocs.
Hector, le podcast qui questionne la science, les pratiques et les positionnements scientifiques. Réalisé par Céline Raz et le service audiovisuel de l'UNAMUR pour l'Institut Mauritius Plantin.
Dans cet épisode, vous avez entendu une composition musicale originale d'Alexandre Rollman. Le montage, c'est Valentin Meys. Les voix additionnelles sont celles de Raphaël Volon et René Robaille. Vous avez aussi entendu en extrait des films « Les visiteurs » de Jean-Marie Poiré, « La cité de la peur » d'Alain Berberian et « Dirty Dancing » d'Émile Ardolino. Il y avait aussi des extraits du reportage de l'émission « Investigation » de la RTBF, reportage intitulé « Dans la gueule du loup ». Vous avez enfin entendu des morceaux de musique « Breathing » de Oscar and the Wolf, « The Wolf » d'Eddie Vedder, « She Wolf » de Shakira, « Running with the Wolves » d'Aurora, A Wolf at the Door de Radiohead, Le Loup, le Renard et la Belette de The Balfour Brothers.